chères auditrices et les autres, oui, j'entame aujourd'hui le quatrième chapitre de ma circonférence en tant qu'animateur suppléant de ce rendez-vous français. J'avais mis un terme à ma dernière et brillante communication, oui, je ne vous le fais pas dire, en faisant ressortir l'extrême obstinisme qui affecte les séfarades depuis des temps immémoriaux. J'avais cité Judas Maccabi, l'inventeur de la bière israélienne et capitaine de l'équipe de basketball de Tel Aviv, comme prototype, comme incarnation vivante de cet obstinisme. Figurez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, que les gréco-syriens ont été jusqu'à lever une armée de 60 000 hommes pour venir en aide aux 10 000 Maccabées, toujours enfermés dans leur amphithéâtre Tsoin-Tsoin, d'où ils ne voulaient pas bouger. Ils n'ont même pas voulu que l'on décorasse gratuitement leur temple avec de belles statues grecques « made in Hong Kong » qui étaient à la mode à cette époque et qui coûtaient une fortune. Les statues de Jupiter, Apollon, un peu plutôt Zeus, Apollon, Artemis, Demis Roussos, Nana Mouskouri, Mélina Mercouri, Anthony Quinn et j'en passe. À la fin de guerre lasse, oui encore un mot grec, j'en passe, de guerre lasse, le maréchal Tito, oui ça va, ok, Titus, Tito, kiff, le maréchal Tito, dis-je, est venu de Rome avec 60 000 ouvriers, pas des soldats comme disent les livres officiels. Et il a démonté le deuxième temple, toujours pour les mêmes raisons. Économie d'énergie, économie de travail, économie d'argent, les taxes, etc. Enfin, il s'était donné pour mission sacrée de venir en aide aux Juifs et de les tirer du pétrin financier dans lequel ils étaient à cause de ce deuxième temple. J'ai déjà développé ce thème la dernière fois. C'est en l'an 70 précisément de l'ère courante qu'il a démonté ce deuxième temple. Ça n'a pas été facile, je vous jure, le pauvre, parce que les Juifs, ils ne le laissaient pas faire son travail en paix. Ils n'arrêtaient pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Chaque fois qu'ils voyaient un char romain, zrat, ils lui mettaient un bâton dans les roues. Ça faisait des embouteillages, je ne vous dis pas. Et ces pauvres Romains, vous avez oublié tout ce qu'ils ont enduré à Masada? Oui, en 73, à Masada. La faim qui les tenaillait, la chaleur qui les accablait. Et oui, c'est un des points chauds du globe, tout le monde sait ça. La froideur du désert nocturne, ils n'avaient même pas une bouillotte pour se réchauffer les pieds, pas une malheureuse bouillotte, pas de portable pour appeler leur femme à Rome, seule, à occuper le même siège pendant des mois et des mois, tout seul. Ils n'étaient même pas 70 000, alors que les Juifs, eux, ils étaient quand même 900. Non, pas 900 000, 900. Et tout ça pour convaincre cette poignée de Juifs de descendre de là-haut. Et toujours mus par leur bon cœur, pour pas qu'ils attrapent une insolation ou quoi. Vous avez déjà essayé d'aller à Masada en plein mois d'août? Mais c'est terrible! Alors tous les matins, au chant du coq, les 70 000 Romains se réunissaient au pied de la forteresse et se mettaient à chanter à plein poumon, en deux langues les pauvres, oui, en latin et en unisson. Ils chantaient tous ensemble « Go down, go down, Moses, Moses, go down, il y en a marre oh. !» Mais les séfarades, ils ne voulurent jamais entendre raison. Et ils y sont encore, à l'heure où je vous parle, avec quelques ashkénazes pour faire bonne mesure. Et on me dit qu'ils y sont encore pour quelques millénaires à Masada. Ils sont fous. C'est pas possible, cet obstinisme, je n'arrêterai pas de le dire. Quant aux Juifs espagnols, même comportement irresponsable quand ils sont partis en croisière dans tout le bassin méditerranéen à la fin du XVe siècle. En 1492, grâce à un visa collectif gratuit que leur avaient octroyé les souverains Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Très sympa, même qu'Isabelle, on dit qu'elle va être canonisée par le pape. Elle s'appellera Sainte Isabelle la catholique, et tout ça grâce au comportement extraordinaire et à la charité, le bon cœur dont elle a fait preuve vis-à-vis de ses sujets juifs. Et nous, les séfarades, au lieu de lui être reconnaissants, la pauvre, on parle d'expulsion d'Espagne. On voit toujours les choses du côté négatif. Moi qui vous parle, j'ai une dette de reconnaissance personnelle envers l'Espagne de 1492, parce que c'est grâce aux chansons judéo-espagnoles médiévales que j'ai largement gagné ma vie en chantant dans les bouches de métro de Montréal. Par exemple, le romance de Diego León. Il n'a absolument rien de juif, comme la plupart des ballades que nous avons importées d'Espagne et conservées jusqu'à ce jour. Vous connaissez ?
Ça m'étonnerait, mais bon.
Diego León était noble, jeune et beau, et amoureux d'une belle damoiselle. Mais le père ne voulait rien savoir.
Mais tout est bien qui finit bien, comme je dis toujours, avec une profondeur de vue qui n'a d'égal que mon originalité intrinsèque. Oui, je ne vous le fais pas dire.
Bon, à la fin, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
En la ciudad de Toledo y en la ciudad de Granada, ahí se ha criado un mancebo que Diego León se llama. Él era alto de cuerpo, morenito de su cara, delgadito de cintura, mozo criado entre damas.
Et voici un exemple de ce que nous, les érudits, on appelle contrafacta. Oui, c'est quand on prend la mélodie d'une chanson profane et qu'on lui colle les paroles d'un hymne ou d'un texte religieux. Singulier, contrafactum, pluriel, des contrafacta.
Voici, attachez bien vos ceintures, un contrafactum.
Adon olam asher malach veterem kol yesir nivra le'et na'asa ve'hevso kol azay melech shemonikra.
Vous avez compris ? Ça, c'était un contrafactum, chanté Adon Olam,
hymne dont les premières paroles veulent dire
« Seigneur de l'univers, maître de l'univers », sur l'air d'une petite ballade
d'amour profane,
Diego León. Vous savez qui est à l'origine de nombreux contrafacta séfarades, notamment en France, mais aussi partout où il y a des séfarades marocains ? Eh bien, c'est Enrico Macias. Écoutez ça.
Yimloch Adonai le'olam Elohayich Siyon le'dor v'ador Alléluia.
C'est authentique ce que je vous raconte, hein.
Et celle que voici, vous vous y attendez? On va voir.
El Adon al kol ha'ma'asim Baruch umborach befi chol neshama Godlo vetuvo ma'ale olam Da'at utvuna sove bimhodo Ha-mit-ga-e al-hayot ha-kodesh ve-nehdar ve-chavod al-ha-merkava zechut u-mishor la-na-ni-ra-ra-ra.
Je devine votre remarque, fort judicieuse, et j'y réponds. Vous me direz, Enrico Macias est algérien, un Constantinois. Pourquoi dites-vous, Soli Lévy, que ces emprunts sont très fréquents dans les synagogues marocaines ? Eh bien, c'est comme ça, c'est un phénomène. Les séfarades marocains adorent se livrer à des contrafacta. Voilà. Et ça peut aller très loin, voyez-vous, très très loin. Parfois même, dans ce procédé de contrafacta, on emprunte la mélodie d'une chanson non seulement profane, mais encore osée, et on l'applique, encore une fois, à un texte liturgique, tout ce qu'il y a de plus spirituel et respectable. Voici de Sami El Maghribi, le fameux Kaftanek Mahloul.
Kaftanek Mahloul, ya la la, Kaftanek Mahloul, da 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 da. كفتنك محلول يا للا تن تران تن تن ترارارن
كي ادوني
الحيرام غادول اشيرا الحيرام غادول.
Ce qui veut dire qu'on est en train de prendre la mélodie d'une chanson qui parle donc d'une dame dont le caftan est entrouvert et de l'appliquer à un piyout dont les paroles veulent dire El Hayram Gadol Ashira, Ashira je chanterai, El Hayram Gadol, le Dieu puissant, vivant et puissant. El Hayram Gadol. Et que dire aussi du très populaire
Aïli, Aïli, Ehbibi Diali, Ufain Houwa, Aïli, Aïli, Ehbibi Diali, Ufain Houwa, Sidi Ehbibi, Ahouwa, Fain Houwa, Ben Sibu, Aïli, Aïli, Ehbibi Diali, Ufain Houwa.
Alors ça veut dire, mon chéri, Ehbibi Diali, Fain Houwa, mon chéri à moi, où est-il? Et tout bonnement, on applique la mélodie de cette chanson très populaire dans les mariages au piyout.
Eli, Eli, Shema Koliki Ekra, Eli, Eli, Shema Koliki Ekra, Shema Koliki Ekra, tantarandandadadadadam.
Alors les paroles presque mystiques de ce piyout, un piyout est un poème paraliturgique, les paroles donc presque mystiques de ce piyout veulent dire Eli, Eli, mon Dieu, Shema Akoli, écoute ma voix, qui écra, car je t'appellerai, qui écra. Voyez cette différence de niveau, prendre les chansons les plus populaires de la rue et les élever, faire ce qu'on appelle une aliyah, les élever jusqu'au plan le plus haut de la spiritualité. Mais je m'égare, je m'égare. On parlait de l'Espagne. Alors, revenons, si vous le voulez bien, au mouton de la Mancha. C'est maintenant l'histoire d'un soldat qui revient de guerre après 7 ans d'absence. Sa femme ne le reconnaît pas. Oui, 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 vous avez deviné, c'est la même histoire que le retour de Martin Guerre avec Depardieu. Eh bien, des siècles avant Depardieu, le romance espagnol se chantait ainsi.
Escuchi, señor soldado, si de las guerras venís, de las guerras, mi señora, de las guerras del inglés. Si habéis visto a mi marido, por fortuna alguna vez, dadme señas, mi señora, que le pueda conocer.
Et qu'est-ce que j'ai entendu chanter à la synagogue Marie Pérez par les tétouanés de Caracas?
Adon olam asher mala veteren kolie siren ivra le'et nasa gehebso kol azay melech shemon ikra.
Quelles étaient les chansons douces que me chantait ma maman lorsque, en suçant mon pouce, j'écoutais un m'endormant? Vous aimez? Je viens de le trouver. Je suis comme ça. Eh bien, c'était des romances espagnoles du Moyen-Âge, comme ceux que je viens de survoler pour vous. Voilà. Alors, chers amis, l'heure est venue pour moi de prendre congé de vous. Et je vous donne rendez-vous peut-être à la semaine prochaine. Parce que si votre animatrice, Martine Lasserie, dont vous attendez le retour avec impatience, nous revient la semaine prochaine, alors vous n'aurez plus besoin de suppléants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et bon, il se peut que nous nous retrouvions sur les ondes de Radio Sepharad dans d'autres langues, si ça vous tente. À la prochaine, peut-être.